Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Villes et bidonvilles d'Afrique, Kinshasa. Faut-il dire, quand on parle des grandes métropoles africaines, faut-il dire ville ou bidonville? Ou bidonville et ville? Ou ville bidonvillisée? Ou bidonville urbanisée? En effet, les villes africaines ont connu des bonds gigantesques au cours des 50 dernières années environ. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les spécialistes des sciences sociales naissantes, sociologues, anthropologues, étaient tous attachés à étudier le phénomène urbain en Afrique, comme on disait, parce que justement, on avait l'impression que ces villes qui avaient quelques dizaines de milliers d'habitants passaient brusquement au-delà de 100 000, plusieurs centaines de milles, et aujourd'hui, au fond, on est très 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 désemparé devant ces villes millionnaires, puisque parmi les villes les plus importantes du monde, on compte une dizaine de villes africaines qui ont plus de 12-15 millions d'habitants. Évidemment, ces villes posent de nombreux problèmes aux planificateurs, mais aussi, bien sûr, aux pouvoirs politiques, car on a vu récemment que les grandes capitales africaines ont été du Burkina Faso à l'Afrique du Sud, du Kenya jusque en Angola et au Gabon et au Congo, ça a été des sites importants de la contestation et des transformations des directions politiques. Alors, l'une de ces villes dont on parle beaucoup et qui est bien connue aussi, grâce notamment à sa musique qui a fait le tour du monde, la musique quinoise, c'est justement la ville de Kinshasa. Cette ville, capitale de la République démocratique du Congo, n'avait pas au départ vocation de capitale. Même si, il faut rappeler ces points, c'est que les villes africaines ne sont pas nées avec la colonisation. Elles existaient déjà avant la colonisation. Tombouctou est un bon exemple, Kano est un bon exemple. Kinshasa, ça n'est peut-être pas vraiment une ville, mais c'est une plaque tournante tout à fait importante qui relie le commerce fluvial de l'intérieur vers la côte atlantique. Alors, sur cette grande ville, dont on parle beaucoup, sur lequel on s'attache surtout aux aspects politiques, les émeutes, le banditisme, le pouvoir politique, la prédation, la corruption, etc. Mais c'est aussi un objet d'étude sur lequel vient de publier un très bon livre un géographe, mais quand je dis géographe, il faut se méfier, ce n'est pas le géographe embourbé dans les terres rurales, c'est un géographe qui travaille sur les villes et qui donc de ce point de vue est à la fois historien, sociologue, anthropologue et peut-être à beaucoup de points de vue politologue. Ce livre s'intitule « Les bidonvilles de Kinshasa », il est publié par Francis Lelonzouzi qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, mais vous participez aussi à toute une série d'opérations de réflexion sur l'avenir des villes congolaises. Vous êtes sollicité par plusieurs organismes internationaux de planification, de prévision, et aussi toutes les organisations qui s'occupent aussi d'organiser la solidarité au sein des villes, puisque les villes sont bien sûr des lieux de convivialité, mais ce sont aussi des lieux de conflit très très importants. Ça fait longtemps que vous travaillez sur une ville comme Kinshasa. J'imagine que ça n'est pas facile de faire une enquête dans une ville de plus de 12 millions, peut-être beaucoup plus que 12 millions. On procède comment? Il y a des archives? Comment faites-vous pour recueillir des données aussi complètes et aussi exhaustives que celles qui se trouvent dans votre livre?
Disons, les archives existent. Il y a plusieurs archives dans les universités surtout, et très souvent nous envoyons aussi nos étudiants dans le cadre de leur mémoire de descendre sur le terrain pour récolter les données. Mais ce n'est pas facile, et surtout quand on travaille, quand on fait des enquêtes dans les bidonvilles. Dans les bidonvilles, c'est très 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 difficile parce que bon, c'est méfiant, les gens se méfient de vous parce que les bidonvilles, bon, c'est pas le paradis, c'est là où on trouve beaucoup de, par exemple, du Kuluna, de Bondy, c'est le dernier retranchement de Bondy. Les gens vont là-bas, on vous suspecte d'être policier ou un agent de la police, un agent de sécurité. C'est très difficile. Et très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons des étudiants qui ont des amis sur place ou qui ont des familles sur place. Et ces étudiants vont, ils se confondent dans la famille. Eux, on les utilise pour mener les enquêtes dans les différents quartiers, comme les bidonvilles qui ont fait l'objet de ce livre dont on parle.
Lorsqu'on regarde les sites pour voyageurs qu'on trouve sur Internet, on vous dit qu'il y a en Afrique des villes dans lesquelles il faut éviter d'aller, et Kinshasa fait partie de ces villes. Alors justement, l'un de vos chapitres dit « ville attrayante, ville effrayante ». Donc c'est une sorte de Janus avec deux têtes, l'une toujours positive, l'autre un peu négative. Attrayante, effrayante?
Oui, c'est vrai, Kinshasa c'est une ville attrayante autant. Elle est attrayante, elle est aussi effrayante. Attrayante parce que c'est Kinshasa la belle, la musique congolaise, la rumba congolaise, ça attire. Et c'est l'une des plus belles villes d'Afrique. Effrayante parce que c'est son gigantisme aussi. 12 millions d'habitants. Et on pense que vers 2020, 22, 25, on va atteindre 15 millions d'habitants. Donc gérer une ville comme Kinshasa avec 15 millions d'habitants, la ville qui s'étale indéfiniment de l'est à l'ouest, la ville s'étend sur 120 kilomètres, et du nord vers le sud, c'est vers 60 kilomètres. Et vous imaginez une ville comme ça, Kinshasa, qui peut englober plusieurs capitales peuvent être englobées par Kinshasa. Donc voilà comment elle est effrayante, cette ville. Très tôt matin, c'est très dynamique. Le soir, ça se calme un peu, mais c'est 24 heures sur 24. La ville bouge sans arrêt.
Vous expliquez d'ailleurs que Kinshasa est à la fois capitale et en même temps province à elle seule, et que dans cette superficie, on pourrait englober plusieurs grandes capitales millionnaires du continent africain. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que Dakar est une ville déjà bicentenaire. Hein. Or, Kinshasa, qu'on appelait Léopoldville autrefois, du nom du roi des Belges, Léopold, qui avait acquis l'état indépendant du Congo, Kinshasa n'est devenu capitale que tard, enfin au début des années 1920. Alors, la croissance, elle a été régulière? Ou est-ce qu'elle a connu des moments de, comment dire, des sursauts particulièrement gigantesques? Au moment de l'indépendance, il n'y a que 400 000 habitants, ce qui est un chiffre raisonnable hein, pour une capitale. Ce bondissement, c'est dû à quoi? L'attrait de la ville, la crise rurale, le développement de la ville elle-même, ou peut-être les crises politiques que le Congo a connues, notamment des crises très très violentes depuis le début des années 60, qui ont pu attirer ici des gens qui fuyaient des guerres civiles.
Tout ça mis ensemble, effectivement, avant 1960, il y avait une bonne politique de contrôle des migrations vers Kinshasa. Et après 1960, les portes se sont ouvertes. Et vous savez, Kinshasa, le Congo a connu plusieurs péripéties, des troubles qui ont entraîné la population congolaise vers Kinshasa, parce que Kinshasa est considéré au Congo comme une ville un peu sécure, sécurisante. Les gens viennent à Kinshasa où il y a du travail, où il y a de l'emploi, il y a la sécurité par rapport à l'intérieur du pays. Il y a aussi cet attrait de Kinshasa. Kinshasa englobe quand même, concentre beaucoup d'activités, et le PIB de Kinshasa est beaucoup plus élevé que dans d'autres provinces, et ça tire du monde. Donc ce sont des facteurs économiques, les facteurs politiques, les facteurs sociaux, et la natalité aussi. Kinshasa, aujourd'hui, ça s'est ralenti un peu, c'est 4,5% de croissance par an et les gens continuent à venir. Par rapport à l'époque, on a même atteint vers les années 70, on a atteint le 9% de croissance urbaine ici à Kinshasa.
Et donc, c'est une ville qui a aussi la capacité, en quelque sorte, de digérer ce flot de nouveaux venus ou de nouveaux nés sur place. Vous avez dans ce livre, Les bidonvilles de Kinshasa, un chapitre tout à fait fascinant dans lequel vous faites une sorte d'anthropologie culturelle des Kinois. Donc vous dites les 10 regards sur les Kinois et la Kinoiserie. La Kinoiserie, qu'est-ce que c'est ?
La Kinoiserie, c'est l'état d'être d'un Kinois. Ces Kinois-là qui est extraverti. Bon, ça, c'est la perception des provinciaux vis-à-vis du Quinois. Le Quinois est extraverti, très extraverti. Ce n'est pas un cachotier, un extraverti. C'est un extravagant, un grand communicateur. Il parle bien, c'est un beau parleur, le Quinois. Ça, c'est tous les Congolais savent que le Quinois, c'est un beau parleur. C'est un bon viveur. Et c'est un bon jouisseur aussi, hein. Il faut voir comment les Quinois jouit de sa vie, même pendant les fortes crises socio-politico-économiques que le Kinshasa a connues, mais les Quinois jouit vraiment de la vie. C'est un gros débrouillard, un grand battant. Il travaille du matin au soir. Et le soir, tout ce qu'il a eu comme gain, il les dépense dans la jouissance. C'est une ville de loisirs. Kinshasa, c'est vraiment une ville de loisirs. C'est un relativiste, le Quinois. C'est pas un défaitiste, un relativiste. Surtout, ce côté sympathique aussi de Kinshasa. Ça, même les Africains, qui ne sont pas les non-Congolais, quand ils viennent ici, ils trouvent que les Congolais est très sympathique, mais imprévisible aussi. Imprévisible, on connaît, hein, toutes les frondes sociales, politiques, ça commence toujours ici à Kinshasa, et puis ça se répand à travers tous les pays.
Oui, et d'ailleurs, l'un des moments importants, ça a été en 1959, dans une ville qui était déjà une ville de jouisseurs, de bars, de musique, etc., et d'emplois, de plein emploi. On a assisté à des émeutes qui ont été parmi les plus violentes de l'Afrique coloniale. Alors, il y a ce phénomène dont tout le monde aimerait bien parler, c'est la SAP, la Société des ambianceurs et personnes élégantes, qui montre que, en fait, il y a depuis longtemps une communion, une communication assez intense entre ces deux capitales qui se font face, ce qui est aussi quand même une exception, entre Brazzaville et Kinshasa. Ce phénomène de la SAP masculine, mais aussi féminine, qui a été, je pense, un révélateur important de ces caractéristiques, de ces 10 visages du Quinois que vous essayez d'expliquer.
Oui, on trouve aussi, c'est deux villes jumelles, c'est les deux villes les plus rapprochées du monde, les deux capitales les plus rapprochées du monde. C'est le fleuve seulement qui sépare Kinshasa de Brazzaville, et c'est presque la même ville, la même ambiance. C'est 6 kilomètres, hein, la largeur du fleuve entre Kinshasa et Brazzaville, c'est 6 kilomètres, et c'est 15 minutes de bateau pour faire Kinshasa-Brazzaville. Et très souvent, les Quinois, le week-end, vont à Brazzaville festoyer le week-end et vice-versa. Ça, c'est depuis longtemps, depuis l'époque coloniale, jusque maintenant, on continue à vivre ça. Quand vous êtes à Kinshasa, vous voyez Brazzaville à côté, les gens qui sont à Brazzaville regardent Kinshasa, et puis c'est vraiment, c'est comme des villes siamoises.
Notre invité, Francis Lelonzouzi, géographe donc aussi un peu historien, qui vient de publier un livre de géographie, d'histoire, de passé et de prospective sur la ville de Kinshasa. La question du logement dans une ville qui bondit comme ça, de 400 000 à 12 millions et quelques d'habitants, est une question tout à fait fondamentale. Il y a eu un urbanisme colonial depuis très très longtemps, contrôlé, maîtrisé, Et puis, il y a eu un moment où, visiblement, les pouvoirs ont été débordés par à la fois le flot de nouveaux venus dans la ville et aussi l'accroissement naturel de la population. Vous parlez de ce phénomène de Manzanzaville. Qu'est-ce que c'est que cette forme d'urbanisation incontrôlée, spontanée, un peu contrôlée quand même?
Disons Manzanzaville. On parle de bidonville. Bidonville, bon, le terme le dit bien, bidon c'est des villes construites avec des bidons, ainsi de suite. Et Manzanzaville, c'est le bidonville, ici à Kinshasa, mais plutôt construite avec des tôles laminées, des tôles de récupération. Et c'est ça la grande caractéristique de ces bidonvilles ici à Kinshasa. Elles sont construites avec des tôles. Pourquoi ? Contrairement à d'autres bidonvilles, vous avez des planches, vous avez des nattes, vous avez des cartons. Ici, nous sommes à Kinshasa où il pleut beaucoup, 1200 mm d'eau par an. Donc, dormir dans une maison en carton ou en bois, ça va se délabrer rapidement. Et pour être à l'abri des intempéries du climat, les gens construisent des maisons en tôle et surtout des tôles de récupération. Et tôle signifie en lingala manzanza. Et beaucoup, si vous dites par exemple, vous arrivez dans un bidonville, il y en a beaucoup ici à Kinshasa, qui abrite des millions d'habitants, vous dites je pars dans tel quartier X, bon les gens ne comprennent pas. Mais dès que vous dites le quartier de Manzanza, dans le quartier en tôle qui se trouve là-bas. Donc un gros problème de logement à l'époque coloniale. Ici à Kinshasa, la métropole, la capitale, le Belge avait construit une vingtaine de quartiers populaires pour abriter les Africains. Mais après l'indépendance, avec cette arrivée massive des migrants ruraux et cette forte natalité, l'État a été débordé et l'État n'a presque pas construit des maisons. Et les Congolais, les Quinois construisent eux-mêmes les maisons. Ceux qui ont des moyens construisent des belles maisons. La classe moyenne construisent des belles maisons. Mais les bas revenus, bon, ne se contentent que de manzanza, des maisons en tôle qu'on appelle le manzanzaville. Et c'est ça, ces bidonvilles qu'on trouve ici à Kinshasa, éparpillées un peu partout. Surtout la grande caractéristique de ces bidonvilles sont nées dans les quartiers industrialo-portuaires, les près des usines. Ils récupèrent les tôles des usines pour construire leurs maisons.
Si on regarde un peu vers l'avenir, on a l'impression que cette espèce de débrouillardise a permis finalement non seulement de construire une ville, mais de construire aussi des relations sociales, de construire des sociabilités, un vivre ensemble, que les politiques essayent de rattraper un peu avec toute une série de cités qu'on a construites déjà depuis du temps colonial et puis depuis l'indépendance. On a l'impression qu'il y a une sorte de coexistence et peut-être de rivalité entre l'initiative publique, étatique ou provinciale, et cette vitalité extraordinaire que vous révélez justement dans les 10 portraits du Quinois. C'est bien cela vers l'avenir vers lequel on va, cette coexistence maîtrisée entre ces dynamiques diverses, mais qui permettent quand même de vivre ensemble.
C'est ce qu'en urbanisme, on appelle la mixité socio-urbaine. Mixité socio-urbaine, donc d'ailleurs, quand vous visitez les bidonvilles qui se trouvent le long du fleuve Congo, juste à côté de ce quartier pauvre bidonville, il y a une belle cité, la cité du fleuve qu'on vient de construire, juste à côté, à quelques mètres de ce bidonville, la cité du fleuve, une belle cité avec des belles villas, de jolis appartements. Mais bon, peut-être nous allons vers cette mixité socio-urbaine à travers toute la ville de Kinshasa. Vous trouvez des belles villas à côté des baraques et les gens vivent sans problème. C'est la société quinoise.
Mixité sociale, urbanisme, urbanité pour Kinshasa, nous y reviendrons probablement. On doit pouvoir trouver la même chose à Ibadan, à Lagos, à Johannesburg, peut-être aussi. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent. Réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présenté en partenariat avec l'UNESCO.